moi d'insister, M. Nadeau-Dubois, mais on peut mettre l'étiquette qu'on veut. Puis c'est parfait, vous trouvez que c'est négatif. Pas de problème avec ça. Dans ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, est-ce qu'il a dit quelque chose qui est faux?
Mais d'abord, vous dites étiquette. Vous m'avez demandé ce que je pense de son discours. Je vous l'ai dit. Pour moi, c'est pas des étiquettes. C'est mon opinion sur le discours qu'il a livré et sur le discours qui, je pense, a le potentiel au Québec de rallier des nouvelles personnes envers l'indépendance. Moi, de dire, par exemple, qu'après 2030, si ce n'est pas le Parti québécois qui est élu et qui fait un référendum, de dire qu'après cette date-là, c'est la disparition assurée, je suis pas d'accord avec ça. L'histoire du Québec, c'est une longue histoire, oui, de lutte, de résilience. Le peuple québécois a eu des hauts, a eu des bas, son destin demeure incertain. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas de pays, il y a une inquiétude qui est légitime sur l'avenir du français, sur l'avenir de la culture québécoise en Amérique du Nord. Mais de là à dire que notre culture est à l'article de la mort et qu'après 2030, c'est la disparition si on ne suit pas le plan de masse du Parti québécois, moi je ne suis pas là. Je trouve que c'est exagérément catastrophiste comme discours. Regardez, en fin de semaine, la culture québécoise était célébrée au Salon du livre de Paris. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crainte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire plus pour lutter contre les GAFAM, par exemple, qui sont une menace envers la culture québécoise. Mais de là à parler de disparition après 2030, il y a un pas que moi, je ne franchis pas.
Merci, M. Nadeau-Dubois. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir, M. Lagacé.
C'était Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire. Avant d'aller à la pause, vous dire que Chrystia Freeland a commencé à donner les détails de son budget 2024-2025 et le gouvernement Trudeau, là, qui est certain de pouvoir maintenir le déficit sous la barre des 40 milliards de dollars pour les deux prochaines années. Pierre-Yves McSween est à Ottawa.
Allô, allô, ici Jean Brisson. Pour une 7e année consécutive, la Finlande est le pays au monde où les gens sont le plus heureux. Le Canada se classe en 20e position. Tous les samedis matins, à la radio de CFIX FM, je vous offre les ingrédients du bonheur pour remonter la pente. Notez que les heures de rendez-vous sont de 9h à 11h et que le port du masque n'est pas obligatoire.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Allô, Nissan? Hey, tu fais ton ménage de printemps, toi?
J'ai pas besoin. Le nouveau Nissan Rogue 2024 brille déjà. Il est tellement élégant.
C'est vrai. Et en même temps, il a pas peur de se salir.
Ah ben non. Avec sa traction intégrale et son efficacité énergétique, il carbure à l'aventure.
Amenez-en de la boîte.
Ben oui, on passera chez moi après. Louez le Nissan Rogue S 2024 avec moteur VC turbo de 1,5 litres à partir de 399 $ par mois pendant 24 mois, incluant une réduction de taux de 2,5%.
Jusqu'au 30 avril, à compte de 1649 $ valeur de 36 497 $ sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
La Cerutech, un choix gagnant pour tous vos besoins en matière de sécurité de serrure et quincaillerie industrielle. Besoin d'une nouvelle clé? Pas de problème. Nous sommes la référence à Rimouski. Vous avez perdu votre clé de voiture? Pas de panique. Nous avons la plupart des modèles sur le marché et de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Avec notre service mobile, c'est maintenant le serrurier qui se rend jusqu'à vous pour tout type de travaux. La Cerutech, nous pouvons vous aider. 396 2e rue Est à Rimouski, 418-731-0998.
Emploi. Vous aimez les Ram, les Dodge, les Jeep? Michaud Auto, un concessionnaire familial solide en affaires depuis 105 ans, est à la recherche d'un technicien en mécanique automobile. Les meilleures conditions dans le marché à Rimouski. Belle ambiance de travail en boni. Informez-vous de notre prime à l'embauche. Vous nous référez un candidat, on vous récompense. Viens nous rencontrer au 380 boulevard Arthur Buis Est ou envoie ton CV à gtremblay@michaudauto.ca. Notre résidence n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est une véritable résidence de cœur. Profitez de notre grande salle de séjour pour lire un livre ou discuter entre amis avec une vue imprenable sur le fleuve. Tous nos services sont inclus dans un seul prix compétitif. Plus besoin de vous soucier des frais supplémentaires. Avec une réputation alimentaire impeccable et un personnel qualifié et humain, nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez chez vous. Prévoyez une visite maintenant. Les résidences de l'Immaculée de Rimouski, au cœur du centre-ville, 581-246.
581-456-3515.
Electro, votre électricien de confiance à Rimouski, c'est l'endroit par excellence pour magasiner vos produits de chauffage, d'éclairage ou bornes de recharge. Avec les dernières pannes électriques, vous envisagez l'installation d'une génératrice à votre résidence ou chalet? Nous sommes dépositaires des génératrices Kohler au propane et sans odeur. Venez nous rencontrer sur la rue des Fabricants. Faites confiance à une équipe professionnelle pour des installations sécuritaires et fiables. Pour vos petits ou gros travaux, on pense toujours à Electro. 418-724-4433 ou le chèqueélectrique.com.
Prochain gros lot du Loto Max, 70 millions plus 10 max millions. Un gros lot mirobolant.
Mirobolant, trop beau pour être vrai. Mais là, c'est vrai, je n'y est pas.
FM 93, fier de desservir la capitale du Bas-Saint-Laurent.
Québec maintenant.
Le Québec maintenant, maintenant. Votre point de repère.
Le Québec maintenant.
16h presque 21 minutes. Christian Freeland présente présentement son budget 2024-2025 à la Chambre des communes. Donc, le déficit prévu pour 24-25 est sous la barre des 40 milliards. Ça devrait atteindre 38,9 milliards en 25-26 et en 2028-29. Là, ça devrait plonger, selon les prédictions présentées par la ministre, à 20 milliards. On parle tout de suite à notre ami Pierre-Yves McSween qui a passé la journée en huis clos à Ottawa pour décortiquer les centaines de pages du budget fédéral. Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc, comment on va aller chercher l'argent?
Facile, on va taxer le gain en capital qui dépasse 250 000 $ à un taux d'inclusion plus élevé. Ça veut dire que présentement, Patrick, si tu vends quelque chose et que tu fais un gain, on t'impose sur le 50 % du gain. Maintenant, tout ce qui dépassera 250 000 sera imposé à 66,66 %. Et donc, je te donne un exemple. Disons que tu vends un immeuble 2 millions, que tu as payé 1 million, mais tu as 1 million de gains en capital. Donc, tout ce qui dépassera 250 000 sera imposable aux deux tiers. Et ça augmente les revenus du gouvernement, autant pour les sociétés que pour les particuliers. Et ça génère assez de revenus pour aller chercher l'équivalent de 19 milliards sur 5 ans. Mais Patrick, chose importante.
Ça me semble modeste au vu du déficit.
Oui, mais ça équivaut aux dépenses supplémentaires qu'on avait annoncées. Mmh. Donc, 1 plus 1 égale 2. Et c'est au niveau des revenus de société davantage. Donc, ce qui est intéressant pour les premières années, c'est que le gain capital sera plus imposé dans les sociétés, c'est-à-dire dans les Inc. Vous n'aurez pas le threshold ou la barre de 250 000. Ce sera à partir de zéro que le gain capital sera plus important. Maintenant, Patrick, on a mis en place d'autres mesures pour compenser ça. On va mettre progressivement en place une réduction de l'imposition du gain en capital pour les entrepreneurs qui sont encore propriétaires de leur business, qui restent en business, qui sont des propriétaires qui travaillent dans l'entreprise. Il y aura un plafond de 200 000 qui va se créer sur 10 ans, qui va permettre aux entrepreneurs d'être imposés seulement à 33 % sur le gain en capital qui dépasse l'exonération qui est déjà 1 million $. C'est beaucoup de chiffres, mais en somme, on prend une personne, on donne un peu à l'autre pour équivaloir tout ça. Et j'aurai une clip tantôt pour toi où Christian Freeland avoue, après une question que je voulais poser, que j'avais raison. Et ça m'a fait vraiment plaisir.
Tu veux nous parler de ça dans ta chronique tantôt? Ou là?
Oui. Oui, et je peux t'en parler tantôt. Mais là, je vais te parler aussi, Patrick. Je sais que tu es un grand fumeur de Jeannet. Mais il y aura une augmentation aussi de la cartouche de cigarettes. Il y aura aussi des subventions au transport subventionnées. On taxe un petit peu plus le vapotage. Il y a beaucoup de mesures. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement dépense au niveau de la construction de logements. On a compris le message. Et on va se mettre à construire sur des terres de la Couronne, sur des terres qui appartiennent à Post Canada. On va vider des immeubles fédéraux pour les convertir en logements. Donc, c'est le message en quelques minutes que je peux te donner. Il y aura à Ottawa de la construction et surtout, il y aura de l'imposition de gains en capital d'une façon qu'on n'a pas vue depuis un bout.
Il y a eu un effeuillage, il y a eu un striptease budgétaire, on le sait, depuis quelques semaines, Pierre-Yves. Est-ce que 40 milliards de déficit, c'est ce que tu anticipais?
Bien, en fait, c'était la prévision, mais en faisant attention, il y a un déficit à 48 milliards potentiels si les hypothèses pessimistes se réalisent. Mais ce qui est impressionnant, Patrick, c'est qu'on passe de 40 milliards à 20 milliards de déficit sur 5 ans, mais les revenus augmentent beaucoup plus que ça. Sur la même période, on passe de revenus budgétaires de près de 500 milliards à 586 milliards. C'est-à-dire que le gouvernement pense que sa croissance budgétaire va être proportionnelle à une augmentation des dépenses et qu'on ne sera pas capable de résorber le déficit davantage. Et on présente beaucoup ça comme, ah, par rapport aux autres pays de l'OCDE, tu sais, c'est correct. Ou bien le ratio dette sur PIB, c'est pas pire, on va finir par atteindre une descente. Mais il en demeure pas moins que le poids de la dette augmente. On voit que le coût de la dette augmente et que le gouvernement fédéral le présente d'une belle façon.
Le présente d'une belle façon, mais semble-t-il que ce budget-là va pas affecter non plus, Pierre-Yves, la cote triple A du Canada auprès des agences de crédit. Ça, c'est un bon baromètre?
C'est un bon baromètre. Ça veut dire qu'on juge que la capacité du gouvernement à générer des impôts puis des revenus puis des taxes est proportionnelle à sa production intérieure brute. Et donc, ça veut dire qu'on dit, comme on se met dans une pente descendante, si le scénario pessimiste se réalise pas, ben, on est capable de contrôler les dépenses. Et, mais ça, c'est avec, Patrick, des hypothèses économiques qui se maintiennent, une croissance selon les prévisions. Puis aussi, faut pas oublier que faut que le taux directeur baisse, puis les taux en général, pour que le coût de la dette du gouvernement baisse aussi, parce que tout ça est proportionnel éventuellement.
Merci, Pierre-Yves. On va se reparler à 17h pour le tour de table et pour ta chronique régulière.
À tantôt.
Merci. 16h26.
Le Québec maintenant.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
On le sait, les impacts des changements climatiques frappent toutes les régions. On peut même dire de plus en plus. On peut penser à des inondations, évidemment, mais il y a aussi eu des tornades. Les événements climatiques extrêmes se multiplient. Et il est urgent de trouver des solutions pour s'adapter à cette réalité-là, parce que c'est assez évident qu'on va pas stopper, en tout cas pas dans cette génération, le réchauffement du climat. C'est la raison pour laquelle près de 500 personnes sont réunies aujourd'hui et demain à Montréal pour le deuxième Forum national de l'action climatique. Alain Bourque est directeur général d'Uranos. Il participe à ce forum et on le reçoit souvent à cette antenne pour expliquer les défis des changements climatiques. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour.
À quoi ça sert un Forum national de l'action climatique?
En fait, ça sert à mettre dans les mêmes pièces des scientifiques, des gestionnaires, des gens qui développent des politiques publiques, des gens qui travaillent pour des organismes de bassin versant, des municipalités, des scientifiques, des gens en zone côtière, des gens en zone forestière, en zone agricole, etc., les mettre ensemble et justement discuter des solutions optimales pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, naturellement, mais aussi pour apprendre à gérer les risques climatiques qui, comme vous le disiez là, très bien en introduction, sont croissants. Là, on voit de plus en plus d'événements soudains, des aléas météo, des tempêtes, etc., mais il y a aussi de plus en plus une transformation de fond de nos écosystèmes là qui réagissent à des températures plus chaudes, à des régimes de précipitations différents, etc. Donc, le monde change. En fait, le climat change et donc le monde doit changer aussi.
Donnez-moi un exemple de mesure d'adaptation qu'il va falloir envisager dans nos villes, dans nos campagnes, rapidement.
Ben, je vais donner un exemple concret parce que c'est un peu d'actualité dans le monde municipal, mais le gouvernement du Québec est sur le point d'émettre des nouvelles cartes en lien avec les zones inondables. Alors, c'est clair que ça va mieux cerner les risques dans un contexte de changement climatique, mais du même coup, ça illustre aussi un petit peu le défi d'intégrer l'adaptation dans l'aménagement du territoire, parce que malheureusement, on est en zone de transition. Là, les risques ont tendance à être croissants, mais souvent, on a acheté une maison ou on a mis en place des infrastructures sans nécessairement savoir que c'était à risque, quoique on a quand même construit au cours des dernières décennies dans des zones inondables. Donc, il y a d'autres personnes qui le savaient qu'ils étaient à risque. Ça fait qu'il y a ce double défi là.
OK. En février dernier, le gouvernement a annoncé là, 500 millions de dollars pour soutenir les villes, les municipalités dans l'adaptation au changement climatique. Est-ce que, tu sais, 500 millions, ça frappe l'imaginaire, M. Bourque? Est-ce que c'est assez?
En fait, le monde municipal réclamait 2 milliards. Puis c'est vrai que les investissements faits par les municipalités en matière d'infrastructures, d'aménagement du territoire, des parcs, etc., c'est vrai que c'est des montants importants. Ceci étant dit, je pense que le monde municipal doit aussi payer une partie de la facture. Là. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont de propriété municipale, donc c'est normal qu'une partie du 2 milliards soit assumée par les municipalités. Mais le 500 millions du gouvernement du Québec pour développer des plans climat qui vont aborder à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation, c'est clairement un très bon montant de départ pour justement intégrer l'adaptation au changement climatique. Et on a aussi décidé de le faire à l'échelle des MRC, ce qui va faire en sorte qu'il y a certaines petites municipalités qui n'ont pas les moyens de faire des plans climat. Donc, en agissant à l'échelle davantage régionale plutôt qu'à l'échelle